Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct. Dans quelques secondes, toute l'info avec le journal. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. La gauche a-t-elle perdu sa boussole républicaine, nous dira-t-il. 19h20, le grand débat du Club des Idées. La monarchie peut-elle vaciller? On en parle ce soir après les accusations graves de Meghan et du prince Harry qui accusent donc certains membres de la famille royale de racisme. La guerre est-elle déclarée? On en parlera avec nos invités, notamment Stéphane Bern qui sera en direct avec nous. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Si on n'a pas de livraison de vaccins dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils ont été consommés ce week-end et donc c'était pour faire de la communication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne fait pas ce qu'il faut pour vacciner le plus vite possible.
Les médecins généralistes sont en colère. Les doses avec lesquelles ils devaient vacciner leurs patients la semaine prochaine sont finalement réservées aux pharmaciens.
L'assassinat de Samuel Paty, la collégienne à l'origine des accusations, reconnaît avoir menti, son père également. C'est lui qui avait relayé l'information sur les réseaux sociaux.
Un lundi de grève féministe en France, en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des associations ont appelé à une marche des premières de corvée.
La libération au Sénégal de l'opposant Ousmane Sonko. Didier François nous dira que jamais encore dans ce pays considéré comme un modèle, c'est vrai, de démocratie en Afrique de l'Ouest, on avait connu de telles tensions.
Et puis on donnera la parole à Sébastien et à Virginie. Ils sont policiers et ce matin, ils ont vraiment eu le sentiment d'avoir été au bon endroit, au bon moment.
La météo avec Anissa Haddadi, soleil et fraîcheur, voilà pour le programme demain.
Oui, le ciel sera dégagé effectivement demain, très lumineux sur une grande partie du pays. Quelques nuages et des petites averses s'accrochent encore dans quelques régions. Les températures sont froides demain matin. On va gratter les pare-brises. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La crise sanitaire côté pile. On a vu tout ce week-end ces images de centres de vaccination ouverts pour la première fois le samedi et le dimanche un peu partout en France. Et ces dizaines de milliers de personnes vaccinées en 48 heures. Côté face, on a des médecins généralistes pas contents.
Oui, car les doses d'AstraZeneca avec lesquelles ils devaient vacciner la semaine prochaine leurs patients sont finalement réservées aux pharmaciens. Et ça ne passe pas, Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans le Nord.
Ah oui, et c'est même une vraie colère qui gagne les médecins de ville, à l'instar du docteur Calafiore à Waterloo près de Roubaix, qui va devoir annuler des rendez-vous de vaccination puisque les doses qu'il devait commander seront réservées à la vaccination en pharmacie.
On nous a demandé de prioriser les patients qui ont des problèmes de santé pour pouvoir les vacciner le plus vite. Donc on a commencé à organiser les vaccinations en leur fixant des rendez-vous. Et là, quasiment du jour pour le lendemain, on va devoir les appeler pour décommander les rendez-vous. Et les vaccins vont être redirigés vers les pharmacies et donc les patients qu'on ne va pas pouvoir vacciner nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir être vaccinés par le pharmacien? C'est même pas sûr.
Situation ubuesque qui illustre une nouvelle fois la pénurie des stocks, selon le docteur Calafiore, qui se demande par ailleurs si ce n'est pas ici aussi la conséquence des opérations de vaccination massive organisées ce week-end dans la région Nord.
Si on a fait des grandes opérations de vaccination là ce week-end, les vaccins, il a bien fallu les prendre de quelque part. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, si on n'a pas de livraison de vaccins dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils ont été consommés ce week-end. Et donc, c'était pour faire de la communication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne fait pas ce qu'il faut pour vacciner le plus vite possible.
Deux syndicats de médecins demandent maintenant la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, accusé de détournement de vaccins au profit des pharmaciens. À Tourcoing, le représentant de la CSMF appelle, lui, ses confrères à suspendre leur participation au centre de vaccination.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Une vaccination, en tout cas, qui devient de plus en plus urgente. Au vu de la situation actuelle en Île-de-France, notamment, l'Agence régionale de santé ordonne aux hôpitaux et aux cliniques privées de la région de déprogrammer 40% des opérations non urgentes pour faire de la place aux patients Covid. Ils sont de plus en plus nombreux en réanimation, de plus en plus jeunes également.
Oui, les services sont saturés. Dans le journal de 18h, un médecin nous disait qu'il est urgent de prendre des mesures sans attendre, même si l'on sait que pour l'instant, le gouvernement ne souhaite pas reconfiner l'Île-de-France. 19h03, on en vient à l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Et on a donc la confirmation aujourd'hui que l'adolescente qui accusait l'enseignant d'islamophobie a bien menti. Elle l'a avoué au juge.
Elle n'était pas présente lors du cours sur les caricatures de Charlie Hebdo. Et l'on découvre également que son père, qui est mis en examen pour complicité d'assassinat et qui avait partagé l'histoire de sa fille sur les réseaux sociaux, et bien que son père est finalement revenu lui aussi sur sa version, Justin Morin.
Effectivement, sur les réseaux sociaux, il n'avait pas eu de mots assez durs pour dénigrer Samuel Paty, un voyou de l'histoire, malade à virer. Il avait même appelé à se mobiliser. Mais lors d'un nouvel interrogatoire, il y a un peu plus d'un mois, il s'est repenti. Il a expliqué au juge que les caricatures, la discrimination, finalement, ça n'était pas son sujet. Je cite, il s'en fiche. Non, il était surtout en colère parce que sa fille avait été exclue 2 jours du collège. Je voulais me comporter en bon père, a-t-il dit. J'ai été con, stupide. Je dois la vérité à cette famille-là, à Monsieur Paty, à toute la France. Un revirement qui interroge l'avocate de la famille Paty, Virginie Leroy.
Je trouve ces explications légères et de circonstances. On ne peut pas se réfugier derrière la prétendue colère qu'aurait généré cette décision d'exclusion en faisant reporter la responsabilité sur Samuel Paty. C'est faux. Donc les explications qui sont fournies aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de l'acharnement qui a été mis en œuvre contre Samuel Paty et ne fournissent pas de clés de compréhension.
Le père de la jeune fille est poursuivi pour complicité d'assassinat terroriste. Il est emprisonné à Fresnes depuis sa mise en examen il y a 4 mois et demi.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
En cette journée internationale des droits des femmes, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Paris pour réclamer l'égalité femmes-hommes.
Égalité en termes de salaire, mais surtout en termes de respect, Marine Protet.
Stop à la culture du viol, c'est l'un des principaux mots d'ordre que l'on peut lire sur les pancartes. Une revendication que les organisatrices de la manifestation expriment en chanson. En combinaison bleue, bandeau rouge dans les cheveux, symbole de la révolution féministe, Martine réalise la chorégraphie qu'elle a inventée avec son collectif Les Rosies. Mais derrière cette ambiance festive, un message lourd.
On continue à accepter le viol, on accepte cette liberté sur le corps des femmes. On peut se faire siffler dans la rue, on peut se faire traiter de salope parce qu'on a une robe courte. Dans le boulot, elle est ma biche, tu veux pas venir m'aider? De quel droit?
D'autant que les agresseurs ne sont pas toujours punis, lance Enora, 21 ans.
Je suis à Sciences Po et je connais des violeurs ou des agresseurs sexuels qui ont été changés de campus pour éviter leur exclusion et qui ont évidemment récidivé dans leur nouveau campus.
Alors forcément, quand le cortège fait étape devant la Sorbonne, ça lui parle.
Nous, on est l'UNEF, on est le syndicat étudiant et on va vous lire quelques témoignages qui ont marqué l'actualité. Je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans, j'ai été violée au lycée, en vacances et à l'IEP.
Et pour que les viols cessent, l'UNEF, comme les 36 autres organisations présentes à la manifestation, appellent à éduquer nos fils avant d'avoir à protéger nos filles.
Le reportage de Marine Protet dans la manifestation parisienne en faveur du droit des femmes.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, la suite du journal. Et on a choisi ce soir, parce que ça fait du bien, c'est vrai, de vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qui met en scène 2 policiers.
Et on va leur donner la parole d'ailleurs. Ils s'appellent Sébastien et Virginie. Et ce matin, à Ris-Orangis, dans l'Essonne, en banlieue parisienne, eh bien, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de faire.
J'ai vu cette dame allongée par terre et j'ai vite compris qu'elle était enceinte et qu'elle avait des contractions très très rapprochées. Donc il faisait froid, il faisait moins 2 degrés le matin. Le papa était à côté, mais il ne savait pas trop quoi faire. J'ai commencé à regarder et puis là, l'équipage de Virginie est arrivé. Donc j'ai préféré laisser ma place à Virginie.
Donc moi, je suis allée sous une couverture de survie, sous la robe de la dame. Et en fait, c'est vraiment dur pour elle. Elle a très très mal et je la comprends tout à fait. Elle n'a pas de péridurale. C'est très violent, ça va très vite. D'un seul coup, je vois des petits cheveux noirs qui sortent. Les pompiers ne sont pas là, tant pis. Je me suis rappelé de mon accouchement. Je l'ai mis dans la même position, je l'ai mis sur le dos. Et puis d'un seul coup, expulsion du bébé. Et en 2 secondes, le bébé, il était là. On l'a entendu pleurer immédiatement. Donc là, c'était le gros, gros soulagement. Moi, j'ai les larmes qui sont arrivées. D'émotion, hein. J'étais contente que tout se passe bien, j'étais contente pour la maman du beau bébé qui était une petite fille, donc on lui a dit que c'était une petite fille. Donc les pompiers l'ont vite emballé avec la couverture de survie parce qu'à moins 2 degrés c'était horrible, la maman a claqué des dents et de là le SMUR est arrivé, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le pauvre papa qui était un peu perdu, il était resté sur place, les pompiers ils n'ont pas pensé que c'était le papa, donc nous on s'occupait du papa, comme ça on les a accompagnés jusqu'au bout, c'était le top, c'était beau, franchement c'était beau, ça change de notre quotidien où parfois c'est très difficile. La semaine dernière, c'était des attaques à coups de couteau. Puis là, aujourd'hui, on fait accoucher une femme. Donc, ouais. Franchement, c'est génial. Nous, on est contents, on a du bonheur enfin et ça fait du bien.
Ça fait du bien, effectivement.
Sébastien et Virginie, 2 policiers du commissariat d'Evry dans l'Essonne avec Guillaume Bier et la petite fille est en pleine forme. Elle s'appelle Myriam.
Bien. Dans l'actualité également, la mise au point d'Oprah Winfrey, la présentatrice américaine qui a interviewé Meghan Merkel et le prince Harry la nuit dernière. Disculpe. La reine Elisabeth II et le prince Philippe.
Oui, parce que vous savez que Meghan Merkel a porté de lourdes accusations. Elle a affirmé que quelqu'un dans la famille royale avait exprimé des inquiétudes sur la couleur de peau de son futur bébé quand elle était enceinte d'Archie, laissant entendre que peut-être la cour royale d'Angleterre était raciste. Oprah Winfrey précise donc que ni la reine ni son époux ne sont à l'origine de ces propos qui ont créé un électrochoc en Grande-Bretagne. Les Britanniques ont également été choqués d'apprendre que Meghan Merkel avait eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait encore au sein de la famille royale et qu'Harry s'était senti vraiment lâché par son père, le prince Charles.
Bien, et on en parlera évidemment dans quelques minutes dans le débat du Club des idées consacré ce soir à ce séisme pour la monarchie britannique avec notamment Stéphane Bern qui sera avec nous. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est sorti libre cet après-midi du tribunal de Dakar où il était entendu par un juge dans une affaire de viol. Accusation que le député a toujours démentie. Son arrestation la semaine dernière avait déclenché des émeutes et des pillages dans tout le pays. 5 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre.
Et on en parle ce soir forcément avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un tel niveau de violence, Didier, le Sénégal ne l'avait jamais connu. Hein.
Alors ça c'est sûr, hein, des blindés déployés dans les rues de Dakar, c'est du jamais vu, tout comme les coupures d'accès aux réseaux sociaux ou la suspension d'émissions de chaînes de télévision pour le pays considéré comme modèle de la démocratie en Afrique francophone de l'Ouest. Ce sont des mesures tout à fait inhabituelles, révélatrices du haut niveau de tension qui existe au Sénégal. D'ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, l'arrestation en fait mercredi dernier d'Ousmane Sonko, le principal opposant au président Macky Sall, n'ayant été finalement que la petite étincelle qui a provoqué la déflagration, la première raison profonde de cette flambée de violence, c'est l'effet Covid-19. Les conséquences économiques de la crise sanitaire qui sont terribles parce qu'il faut savoir que la majorité de la population dépend pour sa survie du secteur dit informel qui sont tous ces petits boulots qui vont de la vente de cigarettes à l'unité jusqu'à la fabrication artisanale de pièces pour vieilles automobiles. C'est 97% des créations d'emplois et 45% de création de richesses du pays. Donc vous imaginez les effets dévastateurs des mesures de couvre-feu sur les niveaux de revenus de jeunes plus ou moins précaires dans une société où la moitié de la population a moins de 20 ans. Or, ce sont justement ces jeunes exclus qui sont les plus sensibles au discours d'Ousmane Sonko, qui, lorsqu'il dénonce une recolonisation de l'économie sénégalaise par la France avec la complicité des élites locales, c'est un peu populiste, mais ça marche. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les pillages systématiques des commerces français au cours de ces manifestations.
Oui, alors ça, c'est pour le contexte social général et puis la forme. Mais on parle quand même d'une accusation de viol, c'est pas rien.
Oui, malheureusement, elle est portée par une employée d'un salon de massage où Ousmane Sonko a effectivement des habitudes. Mais à ce stade, la parole de son accusatrice est totalement inaudible pour les manifestants qui voient derrière cette inculpation un coup monté par le pouvoir. Il faut quand même dire que Ousmane Sonko est le troisième opposant sérieux au président Macky Sall à se trouver empêtré dans les filets judiciaires qui pourraient mettre un terme à ses ambitions politiques. Avant lui, déjà 2 candidats potentiels à la présidence ont été condamnés pour corruption puis graciés, mais après avoir été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel, ce même Conseil qui a également écarté 4 anciens ministres au profil prometteur et qu'on aurait pu prendre ou considérer comme des dauphins potentiels du chef de l'État, ça finit pour faire beaucoup. Il serait peut-être temps que Macky Sall assure clairement qu'il ne va pas briguer un troisième mandat en 2024, ce qui serait contraire aux règles électorales du Sénégal.
Bien, merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h. C'était le journal d'Isabelle Millet. À demain, ma chère Isabelle, à partir de 18h. La météo, Anissa Haddadi, qui nous annonce, Anissa, une journée agréable hein, demain, printanière. Avec du beau temps sur toute la France. Et il faut en profiter parce que c'est le dernier jour.
Oui, c'est le dernier jour, effectivement. Le changement de temps, il est prévu pour mercredi. Alors, en attendant cette journée de transition mercredi, demain, la situation va s'améliorer dans le sud avec un temps beaucoup moins instable, beaucoup plus d'éclaircies demain. En fait, c'est sur les Pyrénées, la Côte d'Azur et la Corse que les nuages et les averses vont s'accrocher demain. Ce sont de petites averses et des nuages qui viendront de temps en temps masquer le soleil. Une petite perturbation a lieu actuellement sur la mer du Nord. Elle touche le Benelux et demain, elle va un petit peu déborder sur la France. Et du coup, le ciel sera un petit peu plus gris des Ardennes à la Lorraine, hein, le long des frontières belges et luxembourgeoises. Mais nous aurons là aussi quelques petites gouttes seulement. Les températures, et c'est là qu'il va faire froid. Et c'est là que demain matin, vous allez gratter les pare-brises avec moins 4 à Montluçon, moins 3 à Auxerre, Clermont-Ferrand et Aurillac. Moins 2 à Nancy, Metz et Belfort. Moins 1 pour Rouen, Tours, Nantes et Saint-Étienne. 2 à 10 degrés partout ailleurs et 7 à 16 degrés demain après-midi. Ça remonte un petit peu sur la moitié nord, il fera un petit peu plus doux.
Frisqué quand même.
Mais c'est froid le matin.
Merci
ouais.
Anissa, voilà, vous avez entendu le message. Si vous avez l'occasion de ne pas aller bosser, profitez-en. Parce qu'après c'est terminé, rideau. Hein. Merci Anissa, on vous retrouve demain à partir de 18h. 19h15, dans quelques secondes, le Club des idées. On reviendra donc sur le coup de tonnerre à Buckingham Palace. D'abord la carte blanche de Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Très bien et vous ?
Bien. Eh bien ça va pas mal en ce lundi 8 mars. Alors vous vouliez revenir sur un sondage qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, notamment au sein de la majorité présidentielle. Ce sondage qui indique qu'au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient au coude à coude, quasiment dans la marge d'erreur. L'une des explications, c'est la défection massive des électeurs de gauche. Le Front républicain, ça ne fonctionne plus. Et ça, ça ne vous étonne pas?
Ben non, ça ne me surprend pas vraiment. Prenez les électeurs de la France insoumise. Hein. Certains, dit-on, n'hésiteraient pas à carrément voter au deuxième tour pour la dirigeante du Rassemblement national. Mais quoi d'étonnant à cela? Marine Le Pen prétend défendre les ouvriers, les déclassés, les oubliés du système, les victimes du libéralisme. Elle tient un discours anti-européen. Tout cela ne peut que séduire ses électeurs. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon tient lui-même un discours anti-élite, non exempt de violence verbale et prône le dégagisme. S'il n'est pas qualifié pour le second tour, Marine Le Pen reprendra facilement le flambeau.
Et alors ceux qui se reconnaissent dans le centre-gauche, comment se positionnent-ils ?
Une partie négligeable d'entre eux affirme qu'ils se réfugieront dans l'abstention. Et là encore, on peut comprendre leur répugnance à voter Macron. Pendant la première partie du quinquennat, la politique économique était d'essence libérale, réforme de l'ISF, réforme du droit du travail, réforme des retraites, on s'en souvient. Depuis l'apparition du virus, des mesures de restriction des libertés publiques ont été prises qui sans doute ne leur ont guère plu. Et les dirigeants qui disposent aujourd'hui des leviers de pouvoir sont tous de droite. Édouard Philippe hier, Jean Castex aujourd'hui, aux finances Bruno Le Maire, à l'intérieur Gérald Darmanin qui trouve que Marine Le Pen est molle, vous le redisiez tout à l'heure, et à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer qui irrite des enseignants, traditionnels bastions de gauche, ça fait beaucoup.
C'est vrai qu'on dit beaucoup que le président de la République a oublié sa jambe gauche.
Absolument.
Alors, on imagine aussi que les écologistes ont des réticences.
Il faut dire que la démission fracassante de Nicolas Hulot, au bout d'un an seulement, et la succession de ministres éphémères, François de Rugy, Elisabeth Borne, maintenant Barbara Pompili, les ont pas vraiment rassurés. On sait aussi que la conversion d'Emmanuel Macron aux problématiques environnementales a été tardive, et visiblement, elle n'est pas convaincante, puisque la semaine dernière, la Commission citoyenne pour le climat a donné une note de 2,5 sur 10 à l'exécutif. On n'est pas loin du bonnet d'âne.
Oui, avec ça, on n'a pas le bac. Pourtant, si vous comprenez la défiance de la gauche, que vous partagez d'ailleurs en partie, vous estimez qu'elle n'est plus entièrement justifiée. Pourquoi ?
Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron a quand même opéré un virage sur l'aile depuis deux ans. Sous la pression des Gilets jaunes, d'abord, il a élargi et revalorisé la prime d'activité, défiscalisé les heures supplémentaires, on s'en souvient. Puis, dans sa gestion de la crise sanitaire, il a décrété la prise en charge du chômage partiel, ça coûte 30 milliards, créé un fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants, et par ailleurs, il a lancé un plan de relance qui est parfaitement keynésien. De sorte qu'à la fin de son quinquennat, son bilan social sera nettement plus flatteur que celui de François Hollande. À cela s'ajoute le dédoublement des classes de CP et de CE1, qui a pour ambition de réduire les inégalités scolaires, et ça marche. Et la loi sur la PMA, qui même si elle aura pris du temps, c'est le moins qu'on puisse dire, est une réforme sociétale non négligeable.
Alors il reste quand même, mon cher Philippe, que Marine Le Pen ne semble plus jouer son rôle d'épouvantail ou de repoussoir pour une partie de ses électeurs. Ça, c'est une réalité.
Absolument. Pourtant, elle n'a guère changé. Sa rhétorique demeure populiste, son programme économique reste baroque et son entourage n'est pas toujours recommandable. Pour preuve, elle a condamné la dissolution du mouvement Génération Identitaire, pourtant considéré par beaucoup comme nationaliste blanc, néofasciste et islamophobe, même s'il ne s'est évidemment jamais défini comme tel. Mais surtout, les électeurs de gauche peuvent pas prétendre ne pas savoir ce que serait une présidence Le Pen. Il leur suffit de regarder ce que fut l'Amérique de Trump, minée par les haines, ce qu'est le Brésil de Bolsonaro, lequel dénonce les pleurnicheries de sa population alors que le pays connaît une nouvelle explosion de l'épidémie de Covid, ou la Hongrie de Viktor Orban, qui se moque de l'état de droit ou de la liberté de la presse. Eh bien, dans un an, dans le secret de l'isoloir et de leur conscience, il appartiendra à ces électeurs de gauche de faire un choix.
Ou pas. Car le duel
ne pas choisir est aussi un choix. Ah oui, ça ne sera peut-être pas ce binôme-là. Vous avez raison.
Ce duel-là, il reste encore une part, heureusement, d'incertitude. Merci Philippe Besson pour cette carte blanche. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, comme promis, on parle de cette crise ouverte à Buckingham Palace après la longue interview de Meghan Markle et du prince Harry à la télévision américaine, dans laquelle ils attaquent directement la famille royale britannique. La jeune femme estime avoir été victime de racisme avant la naissance de leur fils Archie. La duchesse de Sussex parle aussi d'avoir eu des pensées suicidaires, ce qui suscite évidemment une nouvelle tempête royale. Alors on en parle ce soir avec nos invités. Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Good evening. On en parle avec Colombe Pringle, journaliste franco-britannique qui a dirigé Point de vue évidemment pendant plus de 10 ans. Bonsoir Colombe.
Good evening.
Et on en parle. Good evening. Et on en parle avec Stéphane Bern. Good evening à vous Stéphane.
Bonsoir à tous.
C'est donc un séisme au Royaume-Uni qui rappelle d'ailleurs la crise à l'époque de Diana. C'est très grave ce qui a été dit, et notamment ces accusations de racisme prononcées par Meghan Markle. Je vous propose d'écouter ce court extrait.
Durant ma grossesse, on a eu des discussions multiples avec le palais sur le fait que notre bébé n'aurait pas de protection, pas de titre. Des conseillers se sont même préoccupés de savoir à quel point sa peau serait foncée.
Voilà. C'est grave, ça, Pringle.
C'est au-delà de choquant. Enfin, je veux dire, c'est même scandaleux de penser qu'il y ait pu avoir des discussions sur le degré. Ça rappelle l'Afrique du Sud et l'apartheid. Vous savez, pour mesurer le degré de négritude, on mesurait les narines des enfants ou les cheveux.
Alors,
c'est pareil.
Oprah Winfrey, qui a réalisé l'interview, a dit a posteriori, parce que évidemment l'affaire a pris de l'ampleur, qui est amie avec le couple, hein, a dit que la reine et son mari n'ont pas participé à ces discussions de racisme, et c'est, selon ses dires,
l'entourage,
Harry qui lui aurait confié.
Oui. Mais on n'a jamais pensé que c'était la reine ou le prince Philippe qui aurait pu prononcer de tels mots. Et il est évident que la façon dont Meghan a raconté l'histoire, on sent bien qu'elle attaque quelqu'un de précis, d'autant plus qu'elle ne donne pas son nom.
Et vous pensez à quelqu'un, vous ?
Je vais faire comme Meghan.
Oui. Oui. Anne-Elisabeth Moutet.
Honnêtement, il y a des possibilités et je ne vais certainement pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas.
Hmm. Est-ce que ça peut bousculer d'une certaine manière la monarchie, cette affaire-là ?
C'est très ennuyeux à beaucoup de points de vue. D'abord, c'est très ennuyeux parce que la Grande-Bretagne est un pays divers, qu'il a beaucoup connu de manifestations de Black Lives Matter cette année, enfin l'année dernière, plus qu'en France, sans conteste, que bon, le maire de Londres est un Pakistanais, que la ministre de l'Intérieur est une Sikh, que le ministre des Finances qui vient de présenter un budget difficile est d'origine indienne, et donc ils sont très fiers de leur diversité. Et se faire attaquer comme ça, évidemment, ça fait d'autant plus mauvais effet que ça attaque aussi l'un des sujets qui tiennent le plus à cœur à la reine, et qui est le Commonwealth, c'est-à-dire cette union de 54 pays qui ont été, pas tous, mais certains membres de l'Empire britannique, et qui est le corps politique sur lequel la reine a le plus d'influence et qui lui tient énormément à cœur. Et au contraire, elle avait été tellement contente que son petit-fils épouse cette jeune femme qui n'était pas blanche, qu'elle lui a donné immédiatement des fonctions importantes dans l'organisation du Commonwealth, et elle en a donné à Meghan, non pas en tant que l'épouse du prince Harry, mais en personne. Mmh. Alors, tout ça, c'est tout de même un petit peu ennuyeux, ça fait des ordres. L'Angleterre est un pays qui sort d'un confinement difficile, avant la réussite de la campagne de vaccination qui a eu le plus de morts, je crois, d'Europe, de Covid. Il y a eu le Brexit. Enfin, c'est pas quelque chose dont ils ont besoin. Et par ailleurs, il y a toute la question de la relation particulière entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Or, Meghan avait totalement calibré son discours pour que ça soit quelque chose qui soit américain. Elle a parlé de sentiments, de racisme, de perception, de...
Alors, on parlera...
on va parler de tout
on
ça.
On parlera de tout ça et on parlera
Mais l'Amérique
aussi
a une mauvaise idée de la famille royale britannique.
On
maintenant.
Parlera de la perception aussi qu'ont les Britanniques de Meghan Markle et de l'accueil qui lui avait été réservé au moment où elle est arrivée aussi dans cette famille royale, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Stéphane Bern, peut-être un mot de commentaire général d'abord. Est-ce que vous attendiez à quelque chose d'aussi percutant dans cette interview ? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de cette interview qui a été réalisée, je crois, il y a plusieurs semaines. Vous attendiez à ça ?
Oui, on pensait bien qu'avec le nombre d'extraits que Oprah Winfrey a diffusé sur CBS, on pensait bien qu'il y aurait un lâcher de bombe sur Buckingham. Ça a été effectivement, on n'a pas été déçus par les déclarations d'Harry et Meghan. Ce qui est un peu, si vous voulez, ce qui se passe d'abord sur le racisme, il faut dire que au même moment, la reine diffusait une émission sur le Commonwealth, puisque le 8 mars c'est le Day of Commonwealth, et elle a justement montré la diversité du Commonwealth avec une cérémonie où on voyait justement tous ces peuples divers. Donc on peut pas accuser ni la reine, ni le prince Philippe, ni le prince de Charles. D'ailleurs, Meghan parle de conseiller et non pas de membre de la famille royale. Maintenant, sur les déclarations, de manière générale, on sent la frustration, pardon de le dire, mais c'est vrai qu'elle épouse un prince cadet de la maison royale d'Angleterre. Ce dernier ne lui explique pas en quoi consiste son rôle. Son rôle est finalement assez sacrificiel. Elle ne peut pas l'admettre dans la mesure où elle est. Elle a joué un peu les premiers rôles dans Suits, avocat. Et ensuite, on lui dit maintenant, il faut rester chez elle, ne pas bouger. Personne ne la guide, ni son mari, ni les autres d'ailleurs. Et elle demande de l'assistance psychologique à Buckingham. Or, soyons francs, Buckingham n'est pas spécialiste dans l'aide psychologique. On l'a vu en 95 après les déclarations de Diana, même si on sait aujourd'hui que l'interview à Bachir était un peu extorquée d'une certaine manière. Mais si vous voulez, c'est pas les courtisans à Buckingham sont pas spécialistes de l'aide psychologique. Mais cela dit, ça sent la rancœur, ça sent un peu la revanche.
Justement, on va y revenir, Stéphane. Pardon, je vous interromps parce qu'on va marquer une première pause. On aura largement le temps de développer tout ça dans quelques secondes. On se retrouve évidemment avec nos invités. Et puis, on vous a préparé aussi des réactions qu'on est allé faire dans les rues de Londres et puis dans les rues de la Grande-Bretagne pour voir comment les Anglais et les Britanniques percevaient cette interview vérité de la part de Meghan et de Harry. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, oui, la suite du débat du Club des Idées. On s'intéresse donc à cette interview retentissante en Grande-Bretagne et d'ailleurs partout dans le monde à travers cette interview américaine de Meghan Markle et du prince Harry à la télévision US. Alors on évoquait la perception que peuvent en avoir aujourd'hui les Britanniques, les sujets de Sa Majesté, les sujets de la couronne. Et bien on les a interrogés aujourd'hui dans les rues notamment de Londres. On écoute.
Il y avait peut-être du racisme systémique qu'on rencontre partout dans la société. Mais il faut garder en tête qu'elle a choisi cette famille et cette institution historique.
Certains d'entre eux ne sont pas racistes, mais il y a bien du racisme, même s'il est plus subtil que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le monde évolue et on dirait que la famille refuse de se moderniser. Ils sont fixés dans une idéologie du passé.
Voilà, propos rassemblés par Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. C'est vrai quand même, Colombe Pringle, qu'il y a un procès en insincérité qui est fait de la part des Britanniques à Meghan. On se souvient des révélations de son père, la concernant, qui avait dit « méfiez-vous d'elle », d'une certaine presse qui l'a accusée d'être quand même une arriviste. Et puis le Sun, je regardais la une du Sun aujourd'hui, qui titre « Harry serait l'otage de Meghan Markle ».
Alors l'otage, c'était le surnom qui avait été donné à Harry par le personnel à Kensington pendant les préparations du mariage. On reproche souvent aux femmes d'être arrivistes, et pour la journée des femmes, on va quand même faire un petit détour par là, ou d'aimer le pouvoir. Il y a dans l'entretien justement qu'elle donne à Oprah Winfrey, elle dit que le jour où elle est entrée à Kensington Palace, elle n'avait plus droit à ses clés, à son passeport, à de l'argent dans son sac et à conduire. Évidemment qu'elle exagère, mais elle essaye de faire comprendre ce qu'elle a ressenti. Elle aurait dû se renseigner, comme on doit se renseigner sur un rôle qu'on doit jouer.
Parce qu'il y a aussi des infos là, concernant qui sont sorties ces dernières semaines. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un contre-feu en prévision de cette interview
sur le harcèlement à l'intérieur
Meghan, qui aurait harcelé les personnels qui lui étaient octroyés par Buckingham. Une enquête a été ouverte par le palais pour harcèlement. Voilà, ça a fait beaucoup de bruit. On dit qu'elle a même fait pleurer des gens à Buckingham Palace qui sont proches de la reine Anne-Elisabeth Mouquet.
Que ce soit un contre-feu, c'est certain. Mais que ce soit vrai, c'est probablement certains aussi, parce qu'en réalité c'était des choses qu'on savait depuis des mois. Que d'abord on a bien constaté que, alors que personne ne part jamais du service des Cambridge, elle avait des gens qui partaient chez elle pratiquement tous les deux mois, et que ça se voyait
elle
bien.
Un turnover très elle important avait un turnover, parmi son personnel.
Comme on dit, mais ça veut dire que il est sorti des détails de ses exigences. Alors il y a une partie où on peut dire, écoutez, ça c'est une Californienne, elle travaille, elle se lève à 5h du matin pour faire du yoga, et pendant qu'elle fait du yoga, elle dicte des emails, et les gens qui travaillent pour elle, son secrétariat.
Elle est plutôt du genre hyperactive, alors.
Elle est du genre totalement hyperactive et très organisée. C'est une femme très intelligente. Alors, je connais quelqu'un qui a assisté à une réunion de travail, quelqu'un qui travaille dans la famille royale, à une réunion de travail où il y avait 7 personnes et Meghan pour préparer un événement. Et cette amie m'a dit, écoute, on était 8 autour de cette table, il y avait une personne qui avait plus de cellules grises que les autres réunies, et c'était Meghan. Donc, c'est une fille qui est très volontaire. Mais en même temps, on a appris toute une série de caprices. On a appris que, par exemple, quand elle était simplement fiancée à Harry, elle avait organisé un week-end de chasse à Sandringham et elle avait décidé de faire des cadeaux à tous les invités de son fiancé. Et donc, elle a demandé à son assistante, Mélissa Touapti, d'aller acheter des couvertures où elle ferait broder l'initiale de chacun des invités. Oui. Et elle les voulait en rouge. Oui. Et quand Mélissa Touapti, une Française, est arrivée avec les couvertures, elle lui a crié dessus parce que ce n'était pas le bon rouge. Et donc, il fallait d'autres couvertures, les refaire broder, etc.
Un peu princesse, c'est le cas de le dire.
Alors, non, c'est Hollywood. C'est pas princesse, c'est Hollywood. Hollywood. Parce que l'une des choses, qu'elle se soit, qui est, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de l'altercation avec Kate, mais ce n'est pas très grave parce qu'elles ont à peu près le même rang. Ce sont deux senior royals. Mais il y a une chose qu'on ne fait absolument pas dans la société britannique, et c'est de maltraiter le personnel et de maltraiter des gens qui n'ont pas les moyens de vous répondre. Et alors, il y a des elle a eu une assistante qui lui a été prêtée par la reine, qui était une
je crois
australienne.
Que c'est elle qu'elle a fait pleurer, en tout cas.
Mélissa Touapsy et Samantha Cohen.
Bon, ça a dû peser, ça aussi, dans la famille royale. Stéphane Bern, plusieurs questions. D'abord, est-ce que la famille royale peut répliquer? Et puis, j'aimerais bien qu'on remonte brièvement le temps avec vous. Comment elle a été accueillie au départ par la famille royale, Meghan Markle, quand elle est arrivée aux côtés d'Harry?
Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la reine Elisabeth, le prince Harry est son petit-fils préféré. Elle a toutes les tendresses, toutes les indulgences pour lui. Elle a adoré Meghan. Elle a d'ailleurs fait un certain nombre de sorties officielles avec Meghan Markle. Elle était ravie de la cornaquer, en quelque sorte, et de sortir avec elle. Voilà, elle a une véritable affection. Donc, elle a été très bien accueillie. Mais c'est sûr que ce qui paraît tout à fait invraisemblable, c'est que, vous savez, on connaît les trois L en Angleterre. D'abord, la presse vous lèche. Ensuite, elle vous lâche et enfin, elle vous lynche. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est cette relation un peu complexe entre la presse anglaise, les tabloïds particulièrement, et Meghan Markle. Ce qui est terrible, c'est de voir que ce que disait Elisabeth Moutet est tout à fait juste. Il y a des choses qu'on ne fait pas, mais peut-être qu'on aurait dû lui expliquer. Il y a un vade-mecum, comment on se comporte. C'est un rôle sacrificiel quand vous épousez un prince de la famille royale d'Angleterre. On aurait dû lui expliquer, ne serait-ce que son mari aurait peut-être dû lui expliquer. Et ça, elle ne l'a pas compris. Elle pensait qu'elle aurait le premier rôle, ça allait être un rôle comme à Hollywood. Or, et pardon de le souligner aussi, les critiques à Hollywood sont bien pires que celles qu'on peut lire en Angleterre, dans les tabloïds. Donc, je souhaite bien du plaisir au prince Harry quand il va s'agir de trouver un métier, parce que, après tout, sur son CV, autant c'est facile en Angleterre quand vous êtes petit-fils de la reine, autant aux États-Unis où c'est le mérite avant tout, je ne sais pas de quoi il va pouvoir, ce qu'il va pouvoir revendiquer comme expérience professionnelle pour trouver un job. Mais en même temps, je vois le monde entier qui est en train de pleurnicher, pardon de vous le dire, Julien, mais le monde entier pleurniche sur ce couple qui est parti avec 45 millions d'euros et qui disent on a eu des grosses difficultés financières, ils vivent dans une sublime maison d'Hollywood. J'ai du mal, alors qu'on est en pleine pandémie, qu'il y a des millions de gens qui perdent leur emploi, de pleurer sur cette frustration. Une jeune femme qui dit qu'elle s'est sentie désespérée, qu'elle a cherché de l'assistance au palais. Moi, si j'ai besoin d'assistance, j'appelle un psy, j'appelle un médecin, mais je n'appelle pas le palais royal de Buckingham, qu'on sait qu'ils ne sont pas très doués pour la psychologie féminine.
Vous avez raison, Stéphane Bern, mais c'est vrai que les accusations de racisme, qui qu'on soit, voilà, c'est toujours très très désobligeant. Surtout si ça s'est manifesté comme elle le raconte. Est-ce qu'elle peut contre-attaquer la reine et à travers la reine, Buckingham Palace, Colombe
Kingle? La reine jamais n'entrera dans un débat de cet ordre.
Pas directement, mais par ses services.
Il y aura sûrement des façons de faire passer des messages à un moment, mais il n'y a pas besoin de messages. Là, je veux dire, l'attaque est tellement violente et tellement choquante et en même temps tellement injustifiée, à part peut-être quelque chose qui s'est sûrement dit à un moment par quelqu'un, que non, ils vont pas s'abaisser à ça. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que Meghan et Harry, enfin Meghan particulièrement, s'est beaucoup plainte des abus de sa vie, des atteintes à sa vie privée. Ils sont d'ailleurs les premiers de la famille royale à avoir porté plainte contre un tabloïd. Ça ne s'était jamais fait. C'est elle qui a porté plainte au moment de la publication de la lettre manuscrite qu'elle avait envoyée à son père avant son mariage, pour lui dire de ne pas venir, ou au contraire, pour leur rupture définitive. Et c'est Harry qui l'avait annoncé. Elle a gagné d'ailleurs ce procès, et maintenant le Mail on Sunday est obligé de le mettre sur sa une en haut, j'ai vu. Mais pour le reste, elle s'est plainte tout le temps d'attaques sur sa vie privée. Mais que font-ils là-bas, à part ne pas être filmés dans leur maison, mais dans le jardin de quelqu'un? De quoi s'agit-il?
Elle a été
d'une
peu
fausse
naïve.
Couche,
c'est vrai qu'en
épousant, de désespoir, en épousant... de dépression, d'envie de suicide. Je veux dire, on est en Amérique où on étale absolument tous ces sentiments. Donc, ça ne va pas revenir très agréablement pour eux, c'est ça que je crains.
Et puis, il était évident qu'en épousant Harry, elle épousait aussi une institution. Mais ça, personne visiblement ne lui a dit, ou elle n'a pas voulu comprendre. On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques secondes avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite du débat du Club des Idées, on continue de parler de cette interview choc qui fait beaucoup de bruit, évidemment, en Grande-Bretagne, de Meghan Markle et du prince Harry. Pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane Bern et ce qu'a dit aussi Colin Pringle, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Ils sont hors sol aujourd'hui, Meghan Markle et le prince Harry, dans ses accusations et la manière de mettre en scène aussi leur confrontation avec Buckingham Palace.
Alors, c'est encore une fois, s'ils ne sont pas du tout hors sol aux États-Unis, ils sont là pour être des... Au contraire, ils montrent...
Mais c'est aussi aux Britanniques qu'ils parlent, alors, évidemment.
Non, ils parlaient d'abord aux Américains, parce que c'est du marketing. C'est du marketing,
cette
émission.
Pourquoi c'est du marketing ?
C'est du marketing parce qu'ils ont signé des contrats avec, d'une part, Netflix et d'autre part, Spotify. Netflix pour faire des documentaires dans le genre des Obama et de Spotify pour faire des podcasts. Et que ces contrats, on a dit...
C'est
30 millions.
La famille Kardashian prince et princesse.
On a dit... Enfin, il y a du travail qui rentre là-dedans. Ce n'est pas uniquement des photos sur Instagram, retouchées sur Instagram. Et donc, si on a dit 30 millions pour Spotify, on a dit 100 millions pour Netflix.
100 millions pour Netflix.
Mais de dollars. Mais ça ne veut pas dire 100 millions de dollars d'un coup. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de productions pour lesquelles il y a un contrat. Et à mesure qu'elles marchent, qu'elles ont de l'audience, on continue, on en fait une deuxième. Oui. Si elles n'ont pas d'audience, à ce moment-là, on arrête et on est très loin des 100 millions de dollars.
Attendez, si je vous suis bien, Elisabeth Moutet, vous êtes en train de nous dire que s'ils ont fait cette interview, c'est pour avoir un impact public suffisamment important pour porter leur business par ailleurs.
Mais bien sûr.
Donc tout ça, c'est du cinéma.
Et puis se venger un petit
tout
peu.
Tout ça,
aussi.
C'est du cinéma.
Pour Meghan aussi, se venger contre les gens dont elle pense qu'ils l'ont très maltraité. Oui. Donc il y a vraiment un coup de pied de l'Inde, mais il y a aussi le fait que. Une interview comme ça chez Oprah, qui est vue par tellement de monde aux États-Unis, pour elle, c'est une publicité fabuleuse.
C'est du cinéma, Colin Pringle, tout ce qu'on a
c'est
vu hier
soir.
C'est
pour dire sa vérité, mais en tous les cas, c'est pas du cinéma, c'est un roman photo. Et si c'est pas un roman photo, c'est de la télé-réalité, d'une certaine façon. Personne, ils n'avaient pas à dire tout ça. Ils étaient en Californie, ils menaient leur ville, ils avaient peut-être des positions à prendre.
Vous me disiez pendant la coupure pub, il y a 12 chambres et 14 salles de bain, c'est ça dans la
oui,
maison
ou 14 salles de bain et 12 et 11 chambres.
Et un terrain d'atterrissage pour hélicoptère.
Et un terrain d'atterrissage.
Voilà. Et ils sont partis là-bas pour être libres et en même temps, ils sont les pieds pour mettre dans leur douche et poignets liés. À cette diffusion hier soir, même si le prince Philippe mourait ou la situation s'aggravait, ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'il y avait toutes les pubs. Ils sont pieds et pieds, comme dit Anne-Elisabeth, parce que maintenant, pour Netflix, il faut qu'ils arrivent à faire des choses qui marchent. Ils vont être obligés de bosser, Stéphane Bern a raison.
Oui.
Maintenant, là, on n'est plus dans « j'ai tellement souffert », on est dans « j'y vais ».
Mais elle est très travailleuse.
Elle est très travailleuse. Et puis avec un contrat de 100 millions, a priori, même s'il est payé en plusieurs fois, a priori, on est tranquille pour quelques années, même si le train de vie doit quand même demander quelques millions pour être soutenu. Stéphane Bern, vous partagez ce qui vient d'être dit, j'imagine, parce que c'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure.
Oui, ce que je trouve injuste, ce que je trouve injuste, Julien, d'un mot, c'est ils se plaignent du sort qui leur a été réservé, etc. Ils n'ont pas compris une chose. Il y a un choix dans la vie. Comme on fait son lit, on se couche. Hein, c'est un adage qui vaut y compris pour les princes. Soit vous êtes membre de la famille royale et dans ce cas-là, eh bien, vous servez le pays, vous servez la reine, vous servez la nation.
Ah, problème de ligne avec Stéphane Bern. Vous servez la nation. Vous pouvez peut-être compléter Anne-Elisabeth Moutet parce que
il y a un rôle constitutionnel.
C'est vrai qu'il y a un rôle constitutionnel. En fait, la reine a des obligations très très importantes et délègue aux membres de la famille ses obligations. Et... En fait. On est là pour véritablement servir la reine et les institutions.
Et nous rentrons dans une question extrêmement importante qui était la question de la sécurité, c'est-à-dire de gardes de sécurité qui s'occupent de la famille et qui protègent la famille. Et à partir du moment où ils ne sont plus des signes même qui travaillent pour la famille royale, on leur retire cette sécurité qui est payée par le ministère de l'Intérieur. Et il faut se rendre compte qu'il faut assurer le périmètre des maisons et les demeures où ils sont. Et il faut des équipes de gens, plusieurs personnes, et il faut multiplier ça par 3 puisqu'ils font les 3-8. Et donc c'est extraordinairement coûteux, en particulier quand c'était des policiers britanniques spécialisés et qui devaient habiter avec une prime d'éloignement et tout ce qu'on veut, et les avions, de ces conditions-là. Mais d'autre part, le contribuable britannique doit-il payer la sécurité d'un prince du royaume qui est une personne privée, qui a décidé qu'il était une personne privée? Et alors, Meghan a dit que c'était aussi, il y avait une attitude raciste à cause de la sécurité de son fils, mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit très fondé. Je pense qu'on est en train de toucher à autre chose. Est en train de toucher au budget de l'État.
On a retrouvé Stéphane Bern. Il nous reste une minute, Stéphane.
Oui. Oui, Anne-Elisabeth a tout à fait raison. Il n'y a aucune raison de payer. D'ailleurs, les autres arrière-petits-enfants de la reine Elisabeth n'ont pas de sécurité, ne sont pas protégés. Ils mènent une vie normale. Si vous voulez mener une vie normale et gagner de votre vie, vous renoncez à vos titres et au protocole et à tout ce qui va avec la vie de princesse. Le problème, c'est que ces trentenaires veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la reine. Si oui, ça fait beaucoup quand même. Et je les trouve un peu enfants gâtés et qui vont se plaindre. C'est sans doute du marketing, mais cela dit, ils vont se faire le retour du bâton va être terrible parce que c'est un peu, ils me font penser, Harry me fait penser au roi à New York avec Charlie Chaplin, une figure un peu pathétique qui un jour peut-être, j'espère que son histoire d'amour va durer longtemps parce que je l'imagine pas devoir retourner au royaume pour pleurnicher dans sa famille qui va lui manquer parce qu'elle l'a quand même séparé de sa famille.
Bien, merci Stéphane Bern de nous avoir accompagné ce soir. Colombe Pringle, c'est vrai qu'il n'y a pas de réconciliation possible là, a priori. D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais Harry a eu des mots très durs pour son père, en disant « mon père est prisonnier, mon frère est prisonnier de cette famille royale, il ne me parle plus ». C'est ce qu'il a dit chez Oprah.
Il y a toujours le pardon. Mais en effet, je suis d'accord avec Stéphane Bern. Ce soir, il y a encore une certaine excitation pour eux, mais la réalité va les rattraper. Comment ça va, qu'est-ce qui va devenir? Il n'est pas américain, Harry. Il n'est vraiment pas américain. Il ne va plus retourner dans sa famille. Il va y avoir des problèmes, des événements, des cérémonies dans la famille. Anne-Elisabeth Moutet racontait qu'il y aurait bientôt l'inauguration de la statue de Diana. Il va être complètement coupé de chez lui. Mmh. Il n'est pas fait pour ça. C'est quelqu'un de vulnérable depuis très longtemps. Son enfance, la mort de sa mère. Et tout d'un coup, ce n'est pas possible que simplement le soleil de la Californie lui permette de se sentir bien. Alors, il y a le pardon et puis il y a les excuses aussi.
Donc la question, on en revient à la question de départ, Anne-Elisabeth Moutet, est-il sous emprise, Harry ?
Écoutez, je ne veux pas me prononcer parce que c'est toujours compliqué, mais ce qui est certain, c'est qu'il est extrêmement amoureux, qu'il n'a pas envie d'écouter quelqu'un d'autre que Meghan. Et on sait très bien que quand ils ont préparé le mariage et qu'ils ont fait des répétitions et qu'on a choisi les bijoux de la couronne qu'elle allait porter avec sa robe de mariée, il y a eu une histoire sur une tiare en diamant et que quand l'habilleuse de la reine lui a refusé cette tiare, il a hurlé littéralement, et il ne fallait pas le faire, c'est quelqu'un que la reine adore, ce que Meghan demande, elle l'aura toujours.
Elle l'obtient.
Elle l'obtient. Mais ce que je pense, c'est que je pense qu'il va toujours pouvoir se réconcilier avec son père. Les deux garçons ont été très difficiles avec leur père, ils l'aiment beaucoup, mais en même temps, ils ont été très turbulents et tout le reste de Buckingham disait il ne peut pas détenir ses garçons, ils font ce qu'ils veulent. Mais malgré tout, il y a une espèce d'affection. Je ne suis pas du tout sûre qu'il va se réconcilier si facilement avec son frère, parce que William est l'inverse de Harry, il n'est pas spontané, il n'est pas charismatique, il est lent, il est rancunier. Si par hasard, si quelque chose arrive à la reine, si le prince Charles devient roi, c'est le prince William qui devient prince de Galles, et par conséquent, c'est lui qui a les revenus du duché de Cambridge, où il y a encore de l'argent qui vient au Sussex, et à ce moment-là, il fermera le robinet entièrement.
Il fermera le robinet.
Oui.
Bien, c'est une autre histoire, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Merci en tout cas à toutes les deux, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, et à vous, Colombe Pringle, journaliste franco-britannique, d'avoir été ce soir les invités du débat du Club des Idées.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. Ce 8 mars, journée du droit des femmes, on verra qu'en la matière, on revient de loin, de très loin. On en parle avec nos archives. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, on en vient aux archives. 3 minutes pour comprendre quand le passé éclaire le présent. Ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Yasmina Katou.
Bonsoir Julien.
Et en cette journée mondiale du droit des femmes, on va regarder dans le rétroviseur, car c'est vrai que les grands combats ont été pour la plupart gagnés, et on revient de loin. Vous retracez pour nous ce soir donc les grandes conquêtes de cette histoire des droits des femmes, et ça commence je crois en 44.
Oui, et ça commence en 1944. Les Françaises obtiennent le droit de vote, la France d'après-guerre se reconstruit, le droit des femmes n'est toujours pas une priorité.
Je travaille pas, mais évidemment je travaillerai bien. Ce serait peut-être difficile parce que j'ai pas de spécialité.
Finalement, à Genève, en mars 1956, les Nations Unies organisent une conférence sur les droits des femmes. Le sujet crispe les différents pays présents. La représentante russe s'emporte contre son collègue britannique. Et le journaliste d'Europe 1 de l'époque, Michel Desfontaines, qui suit la conférence à l'ONU, conclut ainsi.
L'ordre établi, la déléguée russe put terminer son discours en paix. En conclusion,
Bien que les femmes aient de plus en plus l'accès à la diplomatie, il est vrai qu'elles se laissent pourtant facilement porter par l'émotion.
Et ben voilà, Yasmina, les mentalités évoluent heureusement assez rapidement. 10 ans plus tard, la femme commence à s'émanciper.
Oui, on arrive aux années 60 et les femmes réclament plus d'indépendance. En 1965, elles peuvent enfin ouvrir un compte en banque et travailler sans l'autorisation de leur mari. Une bataille de gagner et la lutte continue dans la rue. Après avoir eu accès à la contraception, les femmes veulent avorter librement. En novembre 1974, à l'Assemblée nationale, Simone Veil présente son projet de loi pour l'IVG. Dans l'hémicycle, face à elle, le député René Feit joue la carte de l'émotion. Magnétophone en main, il fait écouter le cœur d'un fœtus de 8 semaines. Simone Veil reste digne et porte son projet à terme.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
L'interruption volontaire de grossesse est finalement adoptée par 284 voix contre 189. 4 ans plus tard, la France est secouée par un fait divers. 3 hommes violent 2 femmes alors qu'elles faisaient du camping sauvage. Françoise Kramer suit l'audience pour Europe 1.
3 hommes bêtes, ont dit leurs avocats, élevés dans l'idée que les femmes, ça fait toujours des histoires. Ça commence par dire non et puis ça finit par dire oui si on les bouscule un peu.
De ce procès découlera une loi. En 80, le viol est puni de 15 ans de prison.
Oui, donc Yasmina, vous décrivez sur les 20 dernières années les combats qu'ont acquis ces femmes, de nombreux droits. Mais cet élan, c'est comme arrêté au début des années 80.
Oui, comme si les femmes avaient tout accompli, si je m'en tiens aux archives d'Europe 1. Après 80, il ne se passe quasiment plus rien. En tout cas, rien de semblable à ce que la France a connu durant les années 60-70. Françoise Vergès, avocate et militante féministe, explique pourquoi.
Il y a eu, à partir des années 80, une certaine illusion que les grands combats sont terminés. Il y a des choses qui se continuent, mais il y a vraiment un gap et qui va reprendre ensuite dans les années 90, puis surtout beaucoup plus récemment, avec tous ces groupes de jeunes femmes, hein, contre le viol, contre l'inceste. C'est très bien ce qui se fait aujourd'hui.
Selon la militante féministe, l'un des grands combats du 21e siècle est l'égalité salariale. Aujourd'hui, pour le même poste, les hommes gagnent en moyenne 20% de plus à la fin du mois.
Merci pour ce récit. Il y a encore du boulot, c'est important de le rappeler. On le rappelle en cette journée du 8 mars. Merci de ce récit, Yasmina, la conquête des droits des femmes, avec l'aide du service des archives d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on continue d'en parler justement de cette journée particulière des droits des femmes avec vous, Émilie Mazoyer. On te retrouve dans quelques instants, Émilie, pour une émission un peu particulière.
Oui, Julien, on vous a organisé une petite soirée de concert spéciale pour ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. 4 femmes de talent, 4 artistes à suivre en concert ce soir sur Europe 1. Il y aura Clou, il y aura Kimber Rose, il y aura Suzanne et il y aura la révélation féminine de l'année aux Victoires de la Musique, Iseult.
Eh ben, on sera au rendez-vous. Merci Émilie, à tout de suite pour cette émission féminine donc. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de l'impôt, de l'info, on se retrouve demain à 18h. Belle soirée.